c'est parti. Qui vient de s'arrêter. On ne sait pas pourquoi.
Ah, il s'est arrêté.
Mais c'est le début de la saison, c'est pas grave.
C'est normal, on commence, on reprend.
Alors, bienvenue. Bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission infoculture, une émission de pop culture comme on les aime, un mercredi sur deux à 19h sur Radio G, les semaines
paires.
Yes. Comme l'année dernière, en fait, un Bande Geek Mafia semaine paire, ouais. Et caméra subjective, les semaines impaires, émission de cinéma. Alors, on va démarrer cette saison d'abord en saluant une ancienne chroniqueuse, mais qui est toujours dans notre cœur, Anaïs.
On l'embrasse.
On l'embrasse, on lui fait des bisous.
Coucou.
Bien sûr, on embrasse aussi tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio G.
Tout à fait.
Et on va faire un petit tour de table pour se présenter et expliquer un petit peu le concept de l'émission. Salut Pablo.
Eh ben salut Seb. Et salut Seb et Romain.
Alors toi Pablo, alors, tu es un peu spécialiste de philosophie,
alors,
mais
voilà, moi,
philosophie culturelle,
oui,
autour des... séries, des films.
Oui, alors un peu tout. Moi, c'est vrai que voilà, j'adore la philo et du coup, bah, ça, c'est aussi une partie de mon métier. Mais du coup, je l'applique beaucoup à la pop culture et ça tombe bien. On est dans une émission où on développe énormément de culture. Alors, pop culture, évidemment, avec beaucoup de guillemets, puisque on est d'accord qu'en fait, pour nous, c'est de la culture.
Et c'est ça. Voilà, on est toujours. On n'est pas élitiste, on est éclectique.
On est éclectique.
Et donc, surtout le 110 mètres web.
Voilà. Ça, il adore Seb. Et donc, effectivement, bah, on toujours un petit, de temps en temps, un petit clin d'œil philo ou un petit regard philo sur les chroniques.
Merci Pablo. Alors, merci. Seb, spécialiste de la.
De la BD. Et bonjour à Romain, Pablo et Seb aussi en même temps. Et bonjour à nos auditeurs. Donc, voilà, bah, spécialiste de la BD, oui, on essaye.
Et Romain, le nouveau.
Oui, alors le nouveau,
retour,
voilà, le retour.
Le nouveau sans être vraiment nouveau puisque c'est un retour. Ça fait quelques années que j'ai quitté la Bande Geek Mafia parce que j'ai dû partir ailleurs, mais je reviens avec grand plaisir. Donc je salue bien sûr les auditeurs et puis vous bien sûr. Je suis vraiment content de voilà de faire partie de l'équipe tout simplement.
Et alors nous on est très heureux de ton retour et alors surtout que Romain est un petit peu multicarte.
Oui.
Et multipass.
C'est ça.
Et multipass. Voilà.
C'est multipass.
Parce que il va nous parler bah, de films, de séries, de livres, de musique aussi beaucoup de
ouais,
musique. Hein,
tout à fait,
surtout.
Tout à fait.
Tout ce qu'on aime.
Spécialiste. Un peu tout, mais de surtout rien.
Surtout, non. Alors ça, c'est complètement faux. Grand amateur de musique.
Ouais, oui, hein, oui.
Et surtout de films espagnols.
Et oui, oui, films espagnols et hispaniques.
Exactement, latino-américains également. Voilà. Et puis oui, effectivement, la musique et le cinéma, voilà, vraiment un petit voilà. Péché mignon.
Et donc moi, rien du tout.
Mais tout à la fois.
Mais tout à la fois. Donc oui, bah, on va parler aussi de cinéma, de séries.
Dans ce que vous dites pas, les gars, parce que voilà, vous avez aussi des regards historiques.
Oui, sur oh là là, oui,
oh là là, oh là là.
Historien même.
Historien, je dirais même.
Donc, oh, voilà, oh là là,
effectivement. Oh là là.
Alors là, on va faire fuir tout le monde avec nos histoires, mais
oui, c'est clair.
C'est l'esprit de l'émission, c'est l'éclectisme. Seb l'a dit.
C'est le 110 mètres.
Voilà, surtout. Ouais. Hein, et puis
c'est la bonne humeur.
Et puis la bonne humeur. Voilà,
ouais.
On est toujours content de se retrouver et de vous retrouver. Et d'ailleurs, on va démarrer l'émission avec un morceau qui s'appelle The Band Geek Mafia.
Hein, mais oui, mais alors pourquoi l'as-tu choisi, Seb ?
Parce que c'est de là que vient le nom de cette émission.
Ah, mais c'est
un vieux
c'est
titre
extraordinaire
de ska punk américain du groupe Voodoo Glow Skulls.
Voodoo Glow.
Voilà, c'est si. Alors, en anglais.
In English, please.
C'est le crâne vaudou qui brille. Voilà. Et c'est tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le monde. We'll be right back.
c'était Voodoo Glow Skulls avec The Band Geek Mafia.
Oh, tu le dis super bien.
Ah bon, tu trouves?
Incroyable. Oh, c'était vachement festif hein, aussi essayé, en même temps.
Mais ouais, ça envoie,
sympa.
Ça envoie du bois.
Oh, ça envoie du bois. Alors tout de suite, on parle de cinéma.
Bah ouais. Alors, j'ai l'impression que c'est une émission spéciale cinéma.
Exactement, fait. Pablo, et tu as tout compris, parce qu'on a préparé cette émission, chers auditeurs, chères auditrices, et on s'est dit qu'on a vu tous les quatre.
Tous les quatre.
Eh oui.
Beaucoup de films.
Pendant l'été.
Et il faut remettre le cinéma à l'honneur. Florence m'a dit ça aujourd'hui, elle a raison. Ouais. Remettons le cinéma en avant. Allez au cinéma, c'est très important.
Ouais, ne restez pas que sur votre canapé à regarder des séries. On adore les séries, vous inquiétez pas.
On en parlera dans 15 jours d'ailleurs.
Voilà, dans 15 jours c'est les séries, BD, polar et tout. Mais là, le cinéma aujourd'hui.
Alors, Thor, Love and Thunder. De Taika Waititi. C'est le réalisateur.
Ah oui, mais il est génial celui-là.
Ouais, c'est un réalisateur néo-zélandais.
Oui.
Alors, on va dire que la voici enfin, la suite tant attendue des aventures du viking de l'espace. Ce bon vieux Thor, la montagne blonde à cap rouge, le seul super-héros Marvel à ne jamais se prendre au sérieux. Bon, peut-être avec Deadpool quand même. Alors, la recette favorite du cinéaste néo-zélandais Taika Waititi, elle a déjà été testée dans Thor Ragnarok en 2017. C'est-à-dire un mélange de second degré, de clin d'œil, de gag potache, parfois à la limite du grand n'importe quoi, faut le dire quand même, et d'affrontements spectaculaires. La sauce s'épaissit dans ce nouveau délire spatio-farfelu à base de retrouvailles sentimentales. Natalie Portman,
ah oui,
alias Jane Foster, ici transformée en Thor au féminin.
Wow.
Excellent. Et une menace mortelle sur la galaxie en général, oui, encore. Et sur ces dieux en particulier, menace sur les dieux en fait. Joué par un Christian Bale, un méchant, mais alors vraiment très tourmenté, et surtout un très très grand numéro d'acteur.
Ouais, Christian Bale, il nous a bien.
Il est génial.
Très très bon.
Et vous vous souvenez, il a joué Batman, enfin il a joué dans plein de films.
Même Psycho,
et il a juré d'éliminer jusqu'au dernier tous les dieux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un déicide.
Oh la vache.
Alors, le film, il est kitsch. Il est tonitruant, c'est très bruyant. C'est un peu joyeux, c'est assumé, hein, à mon avis, pour tous les publics. Alors, un public juvénile, mais pas seulement. On y croise en vrac des idées drôles. Par exemple, un couple de chèvres géantes.
Pourquoi pas?
Voilà, pourquoi pas. Ou encore l'apparition hilarante et fugace de Matt Damon et Melissa McCarthy. Comme ça, ils font des caméos. Des blagues nulles. On voit aussi les gardiens de la galaxie au complet.
Ah ouais.
On voit des enfants prisonniers, des ombres tueuses, des moments d'émotion, et même Zeus, joué par Russell Crowe. Avec des bouclettes. Avec des bouclettes.
Des bouclettes et jupettes.
Et alors en VO avec un étrange accent grec. Et voilà. Le tout s'est servi comme une ratatouille un petit peu, à la fois savoureuse et indigeste, dans un grand mélange et un grand éloge de l'amour. Parce que vraiment, c'est mieux que la haine. En gros, c'est ça le message du film. Bref, c'est un tort partagé.
Non. Oh.
Alors là, je cite Cécile Murry de Télérama. C'est magnifique. Bravo, Cécile. Donc, en gros, pour la énième fois, on a le viking de l'espace qui armé de son marteau, qui va sauver la galaxie. C'est un délire Marvel. C'est potache, mais c'est hyper spectaculaire. On a passé un super moment, je vous le cache pas. Voilà.
D'accord.
En plus, Chris Hemsworth.
Et Natalie Portman dans ce film.
Magnifique.
Ah ouais?
Comme toujours.
Oui.
Natalie Portman.
Je dirais comme toujours.
Est-ce que c'est contemplatif ou est-ce que c'est une critique réelle sur son jeu? C'est ça le.
Non, elle joue bien.
Ah non, mais j'imagine.
Elle joue bien. Et alors, bizarrement, les acteurs dans ce film, ils sont quand même dans un film un peu, vous avez compris, rigolo quoi.
Ouais.
Mais ils jouent tous hyper bien. Et alors, le Christian Bale, il est au top.
Ah, okay.
Non, et surtout que ce qui est intéressant, c'est que Natalie Portman, c'est une actrice, comme vous savez, qui fait beaucoup de films indépendants et qui place le niveau assez haut. Mais quand elle fait des blockbusters type Marvel, c'est pour vraiment se faire plaisir. Et se donner du temps.
Et elle le fait bien.
Voilà. Elle le fait super bien.
Et alors, moi, ce que j'ai préféré, c'est il y a une scène, ou même plus qu'une scène, il y a une partie du film en fait qui d'un seul coup se passe est filmée en noir et blanc. Et c'est autour du personnage justement du méchant de Christian Bale. Ouais. Et c'est hyper bien fait. Là, c'est visuellement vraiment réussi quoi. C'est moins kitsch, c'est moins rigolo, c'est plus sur les ombres, les lumières, c'est vraiment très très beau. Donc voilà. Si vous avez envie de vous détendre et que vous aimez les super-héros, faut aller voir Thor Love and Thunder.
Encore à l'affiche ?
Encore à l'affiche.
Oh, toujours à l'affiche, oui.
D'ailleurs, j'ai croisé Laetitia, une amie qui adorait, donc vous voyez.
D'accord. Et dis-moi une question. J'ai quand même une question. Pour des gens qui, comme moi, sont passés à côté des Thors,
Quoi?
Mais t'as tort.
J'ai tort. Alors en fait, voilà, je connais Thor dans les Avengers, etc. Mais je n'ai pas vu la série des Thor. Et donc du coup, si je vais voir le 4,
aucun problème.
Ou je suis complètement largué.
Ils sont très très forts parce qu'en fait, si tu as vu les précédents, bon, c'est dans la continuité. Mais si tu ne les as pas vus, ça ne pose aucun problème pour comprendre l'histoire.
Ok. Voilà.
Parce que le Thor tue.
Ils sont complètement marteaux.
Non, mais puis
le
réalisateur, avant de passer au deuxième film, le réalisateur, lui aussi, il est complètement barré. Hein.
Oui.
Moi, j'ai surtout souvenir d'un film que j'adore, c'est Jojo Rabbit.
Oui, j'adore aussi.
Magnifique.
Deuxième film pour moi ce soir, Bullet Train de David Leitch. Alors, pas David Lynch.
Oui.
David Leitch.
Leitch. Ok. Voilà. Faut bien préciser.
Oui, rien à voir avec David Lynch qui fait des films conceptuels pour le coup, mais David Leitch, c'est le réalisateur de Deadpool 2, par exemple.
Ah, ouais, voilà, ça c'est du bon.
Alors, c'est l'histoire d'un ancien cascadeur devenu spécialiste du cinéma d'action déjanté et décalé, le réalisateur de Deadpool 2, qui a mis du style dans son moteur, c'est David Leitch, justement. Alors, il adapte ici un polar. Il adapte un polar qui m'a d'ailleurs donné envie de le lire. Un polar de l'écrivain Kotaro Isaka qui s'appelle Bullet Train.
Ok.
Et donc là, il tire un petit peu le meilleur, je dirais, il tire le meilleur profit de son exotisme japonais. Pourquoi ? Parce qu'on a une énergie comme dans un manga qui emporte ce film, en fait, le film coloré, graphique, qui se joue presque entièrement à bord d'un TGV, alors TGV du réseau Shinkansen, bien sûr, un modèle de fantasy inspiré par le véritable Hayabusa, le plus rapide de tous. Le train.
Oui.
À bord, prennent place un tueur à gages surnommé Coccinelle. C'est Brad Pitt.
Okay. Ça fait pas très impressionnant, on dit comme
ça. C'est ça qui est drôle.
Non.
Les flingueurs Citron et Mandarine.
Ah oui, quand même.
La jeune Prince. La fille s'appelle Prince.
Ah, ça s'appelle Prince.
C'est la fille de la Mort Blanche, le chef russe d'un gang de Yakuza. Et aussi le loup et le frelon, tous en mission élimination.
Yo. Donc ça...
Des personnages que le scénario distribue comme des cartes à jouer dans une grande partie où le spectateur sera bien servi.
Ça va défourailler.
Ça défouraille.
C'est le rendez-vous Attila, c'est ça, non ?
On a toutes les leçons du meilleur cinéma de divertissement ici, notamment vraiment, vraiment une influence énorme de Tarantino lorsqu'il maniait le sabre nippon dans Kill Bill, clairement, c'est très très influencé. On a aussi des influences de Snowpiercer et du Dernier Train pour Busan, les films coréens. Voilà. Alors il invente rien, David Leitch. Il se révèle pourtant doué pour orchestrer la surenchère. En fait, le train, il est pris de vitesse, le film aussi. Donc son Bullet Train, il se mue en film catastrophe, tout en démêlant avec un plaisir, je dirais, acrobatique, les fils d'une intrigue burlesquement labyrinthique. Ils sont forts dans Télérama.
C'est beau, ça.
Alors, en fait, tout ça est destiné à rendre le spectacle juvénile, mais sympathique, hein, et surtout avec une distanciation comique. Qui trouve ici un interprète, je dirais, exceptionnel, vraiment, en Brad Pitt. Il est génial.
Ah ouais, vraiment ?
Ah ouais. Dans le rôle de Coccinelle, l'acteur s'amuse comme un gamin. Je rappelle qu'il a 10 ans de plus que nous. Et il se bat comme un héros. Il se bat comme un héros. Toujours risible, toujours crédible. Il se prend pas au sérieux. C'est génial. Moi, je dis que c'est un numéro de première classe.
Ouais.
Bravo, Frédéric Strauss. C'est Frédéric Strauss dans Télérama. Bravo à lui.
Yo.
Donc Brad Pitt avec aussi Aaron Taylor Johnson. Ça dure 2h07, on voit pas le temps passer, c'est un truc de fou. Donc voilà, un train japonais à grande vitesse, des tueurs hauts en couleur se défient en fait. Et on est entre le film catastrophe et l'énergie du manga.
Voilà. D'accord, l'énergie du manga. Et la musique est top.
La musique est très 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 bien. Honnêtement, on passe un très très bon moment. Bullet Train,
ouais, on vous le conseille. Et de toute façon, c'est clair que c'est rare que Brad Pitt fasse un mauvais rôle. Enfin, il est assez énervant, quoi.
C'est vrai, puis il est bon.
À la fois, il est beau.
Il est beau, il est bon.
Et il est bon, quoi.
Il est énervant, en fait, en un mot.
En gros, c'est
le Nathalie Portman masculin.
Ouais. C'est ça.
Mais là, ce que tu as l'air de décrire aussi, en même temps, ça reprend un petit peu un des derniers films qu'il avait fait, Once Upon a Time, aussi en même temps, là où il jouait le rôle du cascadeur.
Ah oui, mais alors là, il joue pas un cascadeur. C'est le réalisateur du film qui est cascadeur.
Oui, non, mais en tout cas, ça castagne aussi.
Ça
en même
castagne.
Temps.
Oui, alors dans Once Upon a Time, il y a une scène effectivement de baston entre Bruce Lee et le personnage joué par Brad Pitt.
Une scène culte.
Bullet Train, c'est ça pendant 2 heures.
Voilà. D'accord. Ok, c'est bon.
Avec de la musique, des couleurs et au Japon. Voilà. On écoute un peu de musique.
Eh ben merci beaucoup. Merci.
Ah ouais, allez voir Bullet Train et Thor Love and Thunder. On écoute La Despedida. Qu'est-ce que ça veut dire?
La Despedida.
Ouais, c'est dire au revoir tout simplement. Au revoir. Oui, les adieux en quelque sorte. Oh,
tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Tanto dolor, una vez más, apaga las luces y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Ahora voy sin saber, sin amar, por haberte perdido.
Avec la musique, on est au top.
Creature Shock Radio FM. Pablo, tu as raison, on est au top. Surtout qu'on écoute maintenant Romain qui nous parle de Nope.
Nope. Eh bien, d'accord.
Nope. Hop.
Oui, tout à fait. Eh bien, Nope, vous connaissez sans doute, puisque vous connaissez sans doute le réalisateur, n'est-ce pas, Jordan Peele. Ça vous dit quelque chose?
Jordan Peele qui a fait Get Out.
Qui a fait Get Out. Alors ça, c'est un peu la nouvelle pépite en fait de ce qui touche au cinéma spécialisé dans l'horreur. Alors quand je dis horreur, évidemment, on parle de thriller horrifique, de thriller psychologique. Et il avait fait effectivement en 2017 Get Out, qui lui a valu d'obtenir l'Oscar d'ailleurs du meilleur scénario original à l'époque. Puis il a fait 2 ans plus tard Us, que vous avez peut-être vu. Hein,
oui.
Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous le vous le conseille malgré tout, puisqu'il est disponible sur Netflix toujours désormais. Alors, sans leur faire de pub, mais quand même. Get Out, il y était assez longtemps, mais il n'y est plus désormais. Et puis alors, vraiment appâté par ces deux petits bonbons qui nous avaient fait précédemment, ce cher Jordan Peele, eh bien, j'ai décidé d'aller voir Nope il y a peu. Donc, malheureusement, il n'est plus à l'affiche désormais. Hein, il était sorti le 10 août. Alors, dans quelques cinémas seulement. Mais voilà, je me suis dit, jamais 203, allons voir ce film. Ça va être bien, on va passer un bon moment. Et alors, sans divulgâcher, on peut dire que j'ai été un brin déçu, pour ne pas dire pas mal déçu. Ça m'a laissé un peu dubitatif. J'ai un sentiment un peu d'entre-deux par rapport à ce film.
Mais de quoi ça parle ?
Alors, de quoi ça parle ? Ça parle d'une famille, alors c'est proche d'Hollywood, hein, qui élève des chevaux qu'ils utilisent dans les films hollywoodiens et ainsi de suite. Donc c'est des dresseurs, voilà, qui prêtent leurs chevaux pour des films et ainsi de suite, ils sont cascadeurs et ainsi de suite. Et puis très vite, ce qui va se passer, c'est que il va se passer un truc assez bizarre. Hein, il va y avoir je sais pas comment vous dire ça, sans divulgâcher. Il va y avoir en fait un nuage, sans en dire plus, au-dessus de l'endroit où ils ont leur ferme.
Du ranch
et autres petites choses, hein, qui va enlever des personnes, des chevaux. Voilà,
c'est une sorte de nuage.
C'est tout à fait comme je disais, en fait, c'est un spécialiste de l'horreur, du thriller comme ça. Et voilà,
ça part en fantastique et science-fiction.
Complètement. Et c'est un peu tout ça joue entre ça, hein, à chaque fois. Hein, t'es à chaque fois sur les deux côtés. Il y a un côté hyper réaliste et puis il y a le surnaturel qui survient.
Au galop, absolument.
on est en jeu de mots là.
Et le problème de ce film, eh bien, c'est ça. C'est que, alors, il est sublime en termes d'image. C'est un vrai bel objet en soi. Hein, c'est vraiment, on passe un moment agréable. Il est long. Il dure 2h15 déjà. Hein, il faut être prêt. Quand les autres spectateurs ne vous gâchent pas le film avec des pieds, tout va bien.
Mais en tout cas, pieds qui puent.
Alors oui, j'avais pas la proximité n'était pas
détails.
Telle. Non mais bon, en tout cas,
on connaît ça, on connaît ça.
Oui, malheureusement, c'est comme ça. Mais bon. Très bel objet, hein, on passe vraiment, la lumière est magnifique dans ce film, mais par contre,
c'est pas suffisant.
Le seul problème, c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont des sujets très intéressants dans le film, notamment l'exploitation animale à des fins, pour le spectacle, hein, notamment en l'occurrence, c'est le cas des chevaux. Le film s'ouvre sur une scène aussi des années 70 où on avait une sorte de show avec un singe une sorte de petit programme un peu tout public, et le singe s'énerve, il massacre tout le monde. Il y a ce petit côté là. Et le film traite de ça et surtout aussi du tout pour l'image. Vous savez, au détriment de l'éthique, au détriment aussi du bon sens, il y a ce côté-là qui revient dans le film. Et voilà, tout simplement, on a des acteurs qui sont ma foi très connus, hein, si je peux vous les citer.
Ah oui.
Daniel Kaluuya, que vous connaissez peut-être, qui a joué dans les trois précédents, c'est-à-dire précédemment cités, notamment Get Out dans Us. On a Steven, alors je suis désolé si j'écorche son nom, Yeun, peut-être, américano-coréen, qui a joué, pour ceux qui connaissent Walking Dead, Glenn.
Ah oui,
si ça vous dit quelque chose.
Bien sûr.
Kiki Palmer, qui est une actrice et chanteuse américaine, qui joue la sœur dans ce film, la sœur de Jordan Peele, de Daniel Kaluuya, que j'ai cité précédemment, et qui est assez exaspérante, mais sympathique, au demeurant, mais dans le film elle est comme ça. Et puis Brandon Perea, qui joue Angel Torres, et qui a joué dans The OA, pour la série, si ça vous dit quelque chose. Donc voilà, ces acteurs sont bons, mais le problème de ce film, c'est qu'il explore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes, et sans jamais vraiment les creuser. Et c'est ce que je reproche un peu à ce film-là. C'est-à-dire que.
Comme Lost, la série Lost.
Bah, ça effleure plein de thématiques très intéressantes, mais si vous voulez, ça laisse une sorte de no man's land, un flou artistique, qui, à mon sens, laisse aux spectateurs faire tout le boulot. C'est-à-dire, on prête au réalisateur parce qu'on l'aime, parce qu'il est bon, parce qu'il nous a fait précédemment deux petits bonbons, comme je le disais, des intentions, et voilà, c'est un film à clé, donc on se dit que tout ça, c'est ce qu'il a voulu dire, peut-être, mais en fait, on n'a pas vraiment de réponse.
Il n'y a pas de twist final.
Et ma foi, ça reste un peu plat. C'est un peu le sentiment qu'on a en sortant de ce film, malheureusement.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, pour
dire qu'on est resté on reste en surface.
Ouais.
Toi, il t'a manqué des approfondissements.
Oui, parce que j'aime beaucoup les films à clé, hein, mais où on arrive à reconstruire soi-même et sent vraiment,
absolument.
On sent que ce soit évidemment trop linéaire. On voit ce qu'a voulu dire vraiment le réalisateur, ce qu'il a voulu nous faire passer. passer. Là, on sent un petit peu qui, peut-être que c'est qu'un avis bien sûr, mais qui se voilà, qui laisse vraiment beaucoup de zones d'ombre. Et c'est un peu à nous d'interpréter un peu comme on veut. Ouais. Et c'est un peu ce qui m'a un petit peu froissé dans ce film-là, tout simplement. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous dire, si on vous demande est-ce qu'il faut vraiment absolument voir ce film, bah, j'ai envie de vous répondre nope.
Oh,
merci Romain.
Merci. Là c'est Jodie Foster qui chante.
C'est chouette.
La vie c'est chouette.
Elle sait tout faire, Jodie Foster.
Oui. Toi.
Oui.
Pour parler de
Top Gun. Top Gun, bien sûr. Alors, je pense que déjà rien que le titre. Vous savez de quoi on va parler ?
D'avions. De gros navions.
De gros navions.
Et de Tom Cruise.
Bien sûr.
Bien sûr.
Qui ne vieillit pas.
Oh, si. Là, il a pris un petit coup de vieux. Quand on voit le premier Top Gun, qui est donc sorti en 1986, donc là, on retrouve Maverick 36 ans plus tard, qui reste toujours Maverick, hein, comme on peut dire. Un pilote fougueux, un pilote sans limite, qui ne vit finalement que pour une seule chose, c'est voler.
La vitesse.
Yes. Hein, d'accord. D'ailleurs, c'est son problème. C'est-à-dire qu'il aime tellement voler qu'il a refusé de monter en grade. Voilà. Donc, on retrouve notre Pete Mitchell, finalement, pilote d'essai, quand même, encore pour pousser ses limites. Et puis, malheureusement, il va être rappelé pour revenir à l'école de ses exploits, à l'école Top Gun. Et là, justement, eh bien, ça va partir en sucette quand même. Ça va partir en sucette grave.
Ah ouais.
Mais est-ce que c'est pas la même histoire que le premier ?
Eh ben,
il y a de l'imprévu, tu veux dire ?
Non, il y a aucun imprévu. Alors, le problème, c'est vrai que si on regarde sur le plan purement réalisation, vous prenez celui de 86, vous prenez celui de 2022, et bien vous avez exactement le même schéma narratif. C'est exactement la même chose, on recommence exactement la même chose. Mais si on a été fan du premier,
c'est ça.
Et ben, on va être fan du deuxième.
Là, en gros, ils se sont dit, bon, il y a une génération qui a complètement zappé Top Gun, donc on va leur en remettre une couche, mais au lieu de faire un remake, ils refont un truc, mais qui est
avion
pareil.
De chasse et rivalité. Ouais,
voilà. Avion de chasse, rivalité. Et puis bah là, on va rajouter un petit truc en plus quand même, une mission qui est complètement improbable, que bien sûr seul
Tom Cruise
peut le faire.
Bien sûr,
voilà. Donc voilà,
c'est Maverick Mitchell.
Ouais. Et par contre, bah voilà, on a beau dire et beau faire, la scène de réalisation des scènes de vol dans les jets sont magnifiques.
Ouais, elles sont superbes.
Elles sont magnifiques.
Il y a des loopings.
Ah bah il y a des.
Il y avait beaucoup de loopings dans le premier.
Ouais, non mais là on a atteint des niveaux, c'est-à-dire que on n'a pas adopté la même technique aussi pour le film. Alors pour le premier, on avait donc un cockpit qui avait été reconstitué sur fond vert bleu, et donc on avait les mouvements et tout ça. Là, on n'a pas reconstitué le cockpit, c'est-à-dire qu'on a pris que des avions biplace. On a mis la caméra d'une certaine manière pour faire croire qu'il
était seul.
Il était seul,
comme tout le monde.
Sauf que le pilote, lui, qui était devant, avait ordre de pousser finalement l'avion à la vitesse réelle. Donc là, physiquement, on voit bien sur les visages de tous les pilotes, eh bien, qu'ils se prennent des jets.
Ah ouais, c'est marrant. Donc, alors, est-ce que ça veut dire, Seb, parce que toi, tu as vu le film, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ironie dans cette version-là ? Qu'il y avait pas, alors, le premier n'était pas du tout ironique, c'était
non,
vraiment.
Au premier degré.
Ouais, premier degré.
Premier degré.
Est-ce que là, il n'y a pas justement un peu de recul par rapport à ça ? Tu vois, par exemple, là, on s'amuse avec les jets. Non, pas du tout.
Non,
d'accord.
Non, on reste. C'est vraiment.
Donc, c'est un hommage au cinéma des années 80.
Ouais, voilà, exactement. La bande-son, elle est quasiment identique, hein, même si on a Lady Gaga qui a fait
la musique
pour le morceau phare, hein, comme on peut dire, mais on retrouve toutes les musiques du premier. En clair, c'est
Oui. Berlin, Take My Breath Away.
Non, on l'a pas celle-là.
Dommage.
C'est la seule que l'on a, que l'on n'est pas.
Oui.
Mais c'est bourré de clins d'œil. Enfin bref, voilà.
Est-ce qu'il y a Val Kilmer qui jouait Iceman?
Oui.
Putain, il est dans quel état, Val Kilmer? Non, parce qu'il a eu un cancer, ce mec-là.
Il a toujours un cancer.
Ouais.
Ah non, non.
Et alors, Kelly McGillis.
Elle est out.
Ils ont choisi une actrice plus jeune.
Ouais, et ils ont choisi une actrice plus jeune.
Ah bon.
Non, pas plus jeune, pas vraiment.
Ah ouais.
Mais une actrice dont le rôle était évoqué déjà dans le premier.
Ah ouais.
Ah, ta. Et là, franchement.
C'est bien une suite alors.
Ah ouais, non, mais c'est vraiment bien fait. On a vraiment des clins d'œil comme ça. Si on connaît le 1, on voit les clins d'œil tout de suite. Et là, franchement.
Ouais, voilà, c'est super.
C'est super. Mais en tout cas, on s'éclate. Et les scènes d'avion, quoi. Oh, magnifique.
Donc, plutôt Top Gun que Nope.
Bah,
en gros,
oui.
Oh, oui.
C'est pas Nope, hein, Top Gun.
C'est yes.
C'est yes.
Alors, Seb, tu avais choisi The Cardigans.
Ouais.
On écoute ça tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Ah, c'est meuf.
Avec My Favorite Game dans Band Geek Mafia. Un petit jingle, et puis tout de suite, bah, c'est Pablo qui prend la parole pour cette émission spéciale cinéma. Chicha. Romain, tu le fais bien, vas-y.
Chicha.
Creature Shock Radio FM. Alors, Pablo, des films expérimentaux, c'est ça?
Non, il y en a un qui est, je dirais, qui est un film, un petit peu plus conceptuel.
Et tu commences par lequel?
Alors, je vais commencer par After Young.
Ça marche.
After Young, je vous propose deux films, là, After Young et La Nuit du 12. Bon, je vais terminer par le plus sombre, mais en même temps, qui a un vrai coup de cœur énorme. Bon.
On va du film le plus spectaculaire, rigolo, ouais. Machin, Thor, jusqu'au film le plus sombre.
Oui,
La Nuit du 12, voilà. C'est un coup de cœur ou un coup de 12, éventuellement.
C'est ça. Alors, After Young, c'est un ovni. C'est-à-dire, c'est un objet filmique non identifié. À la fois étrange et beau. Un coup de cœur de Cannes 2021 dans la catégorie Un certain regard du réalisateur Kogonada.
Ou un regard incertain, on ne sait pas.
Ouais, c'est ça. En fait, honnêtement, bon, je vous parle du synopsis. Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique, appelé Techno Sapiens. Dans la famille de Jake, interprété par Colin Farrell, il s'appelle Yang. Yang, interprété par Justin Ashmin, éveille plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée d'origine chinoise un rôle de tuteur, d'ami, de confident, bref, de grand frère. Aussi, le jour où Yang tombe en panne, Jack met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Mais le parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu et va mettre Jake aux prises avec des questionnements existentiels et intimes vertigineux. Alors, peut-on porter le deuil d'une machine ? Peut-on ressentir de la tristesse, de la nostalgie et souffrir de la perte d'un être synthétique ? La question vous paraît-elle si absurde que cela?
Non, il suffit de voir les adolescents quand ils perdent leur téléphone portable.
Voilà.
Absolument pas. Et puis, pour c'est faire, ce que je me disais. Si vous avez vu le film Her, où c'est une intelligence artificielle avec laquelle il entretient une relation sentimentale, c'est une thématique aussi de vraiment entre l'homme et la machine, et c'est vraiment très intéressant également.
Exactement.
Et par contre, moi j'ai une question, mais pourquoi il va pas voir le service après-vente?
Eh ben si. Alors, bien sûr qu'il y va. Bien sûr qu'il y va. Voilà, mais je peux pas dire.
Ah, tu peux pas. Eh
oui,
pas,
c'est
mais, non, mais t'inquiète.
Alors
mais,
à la fin, il meurt.
Non,
merde.
Non, c'est même pas la fin, c'est dès le départ.
C'est dès le départ.
T'inquiète.
Voilà, ça, c'est, en fait, on sait qu'il va pas être réparé, la visible.
Voilà. En fait, non, on est obligé parce que ça, c'est dès le départ. On sait en fait que le robot ne sera pas réparé. Mince. Donc après,
les délais sont trop longs.
La question va être plutôt comment va-t-il porter le deuil. Et puis, il va essayer de comprendre qui était ce robot parce qu'il n'en a eu qu'une partie. Il ne l'a connu qu'une partie de sa vie. Donc, si vous voulez, c'est à la fois un film de science-fiction du genre near future ou anticipation proche, un film conceptuel et assez méditatif par son côté posé, la lenteur de son rythme, mais également un film très esthétique et profondément empathique. Un mélange entre IA, intelligence artificielle de Steven Spielberg, Ex Machina d'Alex Garland et de Her que tu citais, de Spike Jonze. Ou encore, je dirais, de la série Real Humans, moins connue. Hein,
ah oui, j'ai vu ça sur Arte, c'était
oui,
bien.
Oui, actuellement sur Arte. Hein, Arte série, vous pouvez la voir. C'est une série suédoise qui est hyper intéressante. Alors, il y a eu un remake américain qui s'appelle Humans. Mais moi, je vous conseille plutôt la série originelle, Real Humans. Donc, entre Blade Runner, si vous voulez, sans l'action, et un Terrence Malick. D'accord.
Blade Runner sans action?
Ben oui, sans action, on n'est clairement pas dans un film d'action. On est dans un film contemplatif. Il est étrange car il est sobre à l'excès dans une esthétique japonisante et très contemporaine, mais assez froide dans sa couleur bleue qui prédomine dans la photographie. Hein. Et pourtant, Jake, interprété par Colin Farrell, certes zen et doux, rempli de compassion. Nos robots auront-ils un jour la capacité de ressentir des émotions humaines? Pourra-t-on un jour reproduire à l'identique nos émotions humaines? Et où nos robots, pourront-ils inventer leur propre nuance émotionnelle ou leur capacité à être affectés? Le film ne répond pas vraiment à cette question, même s'il la sous-entend. En revanche, il explore des questions autour de notre capacité à être affectés en tant qu'humains par d'autres êtres non humains, des machines avec lesquelles nous nous lions. Si nous parvenons à considérer les robots humanoïdes ou technosapiens, comme il est dit dans le film, comme des êtres dignes, des personnes morales, des êtres à part entière, il se pourrait que nous éprouvions de l'empathie et des émotions à leur égard. Bon, en bref, je vous conseille vraiment d'aller voir ce petit bijou assez étrange qui s'appelle After Yang, d'accord, un moment zen et esthétique.
Eh ben oui, ça donne envie, hein, ça donne envie, vraiment.
Alors avant que tu passes à ta seconde chronique, Pablo,
yes.
Un petit message d'Anaïs, une auditrice et ancienne chroniqueuse qu'on adore,
bien
et qui
sûr.
Nous dit des chroniques intéressantes, de la bonne musique et des super chroniqueurs. Un plaisir de vous écouter.
Oh,
un plaisir de savoir
elle est adorable.
Vous êtes à l'écoute, surtout.
Bisous Anaïs.
Oui. Bisous, bisous.
Attention, un film sombre maintenant.
Alors oui, un film sombre. Un film sombre et glaçant, parfois sidérant, mais porté par des acteurs excellents, empreint d'une profonde humanité. Par Dominique Moll, déjà connu hein, pour Harry, un ami qui vous veut du bien.
Ah oui.
Rappelez.
Dominique Moll.
D'accord.
Oui.
Oui. Peut-être tu pourrais nous envoyer la petite bande-annonce.
Ah bah, oui.
Si tu l'as sous la main. Elle donne un petit peu le tout.
Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre ? Est-ce que Clara avait des ennuis ?
Elle tombait facilement amoureuse.
Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse.
Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort.
Tu sais de quoi elle est morte, Clara ? Elle a été brûlée vive.
Moi, je trouve quand même que ça sent la punition.
La jalousie, c'est un levier énorme.
On fait un boulot bizarre, quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations, et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports.
C'est ça.
On combat le mal en rédigeant des rapports.
Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper.
Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile.
En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Hein. Commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre ?
Je sais pas.
C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles ? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus ?
Vous voulez savoir pourquoi elles avaient tué ? Moi, je sais, je vais vous dire.
Ambiance. Chaque enquêteur
l'ambiance est lourde, les gars. Elle ne le dit pas, pourquoi ?
Et elle ne le dit pas, il faut aller voir le film.
C'est la voix de Bully Lanners qu'on entend.
Magnifique Bully Lanners. Je vous parle un petit peu du synopsis, mais on l'aura assez vite compris. À la PJ, police judiciaire de Grenoble, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara. Des interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas. Et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. Bon, porté par Bastien Bouillon et Bully Lanners, alors qui est à contre-emploi, car il ne joue pas les comiques belges ici, hein. Je vous le dis tout de suite, il est plutôt dans un rôle dramatique, dans la peau de deux policiers enquêtant sur un sordide meurtre. La nuit du 12 de Dominique Moll bénéficie d'un engouement quasi unanime de la part de la presse française. Il a aussi bénéficié d'un grand succès, hein, du bouche à oreille. Cet été, hein. C'est ce que tu disais, Romain.
Oui, tout à fait, absolument.
Ouais. Il a vraiment bénéficié de ça. Je cite le journal du dimanche. La mise en scène réaliste d'une précision chirurgicale détaille les différentes étapes de la procédure dans un climat plombé par une fausse piste, tout en esquissant le portrait de flic hanté joué par Bastien Bouillon et Bounier Lanners, exceptionnel. Je cite aussi Marie-Claire. Une fois n'est pas coutume. La nuit du 12, polar vertigineux, signé Dominique Moll, pointe la misogynie systémique qui mine les enquêtes sur les féminicides. Glaçant. Fin des guillemets. Si vous êtes parent, je ne vous cache pas que vous allez souffrir au début du film, d'autant plus que vous vous inquiétez pour vos enfants. Le meurtre est atroce en lui-même, mais dans cette scène d'ouverture, il prend une dimension absurde et cruelle. Quand j'ai vu le film, cette scène résonnait avec l'atroce fait divers survenu à Angers. Cette fois, ce n'était pas la nuit du 12, mais la nuit du 15 juillet 2022, où trois adolescents ont été poignardés à mort. Nous pensons à vous, Ismaël, Atama et Manolito, partis trop jeunes, et à vos proches dans la douleur. Revenons au film. Il s'agit d'un féminicide. Nous sommes alors confrontés à la noirceur de l'âme humaine et à son insondable abîme. Nous avons beau nous forcer à regarder dans les ténèbres, nous n'y voyons rien, nous n'y comprenons rien. Ou plutôt, nous ne percevons que des bribes de sens, des éclats fugaces qui ne suffisent pas à nous éclairer. Nous suivons l'enquête minutieuse de cette brigade de la PJ qui cherche la vérité, interroge des témoins potentiels. Et là, souvent, nous sommes choqués de voir à quel point ces derniers, amis, amants ou proches de la victime, sont au mieux indifférents, au pire malveillants, d'une méchanceté, d'une bêtise crasse qui fait froid dans le dos. Chacun pourrait être le meurtrier, et pourtant, il n'est pas parmi eux. D'emblée, le film nous spoile la fin. Cette enquête n'aboutira pas. Je cite le magazine Première. On imagine que cette décision n'est pas allée de soi. Mais ce parti pris gonflé se révèle totalement payant. Tout d'abord parce que, bien qu'on connaisse l'issue, La nuit du 12 est traversée par une tension permanente qui ne cesse de faire croître, qu'on a mal lu le carton initial, c'est-à-dire le fait qu'elle n'aboutira pas à cette enquête. Je fais une petite parenthèse. Je constate que je ne suis pas le seul à croire qu'on va y arriver malgré tout. Je suis du genre à regarder Titanic et à croire qu'à un moment le pilote va éviter l'iceberg ou que Jack Dawson va s'en sortir. Bon, je sais, je suis content de voir que je ne suis pas le seul, forcément, à m'auto-illusionner. Je referme la parenthèse et je reprends la citation. Ensuite, et surtout parce qu'on comprend très vite, très tôt que ce film va transcender l'enquête sur cet homicide pour s'emparer plus largement de la question de la violence faite aux femmes et montrer en quoi le fait que les investigations sur des féminicides soient menées par des policiers majoritairement masculins influent sur les interrogatoires qui par ricochet du coup sur les résultats de l'enquête. C'est clairement un film politique et social qui focalise sur le féminicide et son atroce absurdité, mais aussi sur le manque de moyens affectés à la police pour bien faire son travail. Heureusement, face à cette noirceur glacée, il y a la chaleur humaine de ces enquêteurs qui vivent avec leurs tripes cette enquête et qui nous partagent leurs émotions, leurs doutes et leurs états de crise. Comme si, au fond, le réalisateur nous rappelait que la seule chose qui peut vraiment nous sauver de l'insondable abîme de l'âme humaine est cette lumière intérieure de l'humanité, qui se trouve aussi dans notre âme. Bref, allez voir La Nuit du 12. Merci de votre écoute.
Merci Pablo.
Merci.
Alors Anaïs nous demande un petit morceau de musique. Alors on va écouter Naaman, je ne connais pas, Outer Road,
okay.
Dans Band Geek Mafia.
C'est Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Let me build a fire up on the real rider from far in the mountain. Deep shot down after town, we are doing a deep rock. Good boy get mad and gal get hot. I love the fact we get another pull up. We are doing a world up, so you're all block. Cause not a thing we need. Yes, good traffic and a piece of weed. I get from my knees, up and up the cool breeze. Peter front side, running up the next train. Out on the nice life with a nice job. Yes, I know that you know that. Still the car on this track. If you want a nice time. Out a road, now wait for the man cause me a gone out a road. Me less of them and a gone out a road. Me na inna that, me na inna them. Flat out a road, out a road, out a road, out a road. Babylon a dead when me a gone out a road. Me less of them and a gone out a road. Me na inna that, me na inna them. Plan me na inna them. Chat Mr. Babylon. Ooh, we keep on moving. Ooh, cause we've been skanking. That
cause me a gone out a road. Me less of them and I gone out a road. Me nah in a that, me nah in a them. Shout out a road, out a road, out a road, out a road. Babylon a dead when you gone out a road. Me less of them and I gone out a road. Me nah in a that, me nah in a them. Chat, me nah in a them. Plan Mr. Babylon.
Et voilà, c'était Naman avec Outer Road dans Monde Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5, la radio. La radio.
Alors Seb, tu voulais terminer l'émission en nous présentant quelques petites bandes dessinées.
Oui, quelques petites bandes dessinées, des petites pépites.
Qu'as-tu donc dans ton panier?
Un petit peu de tout. Alors j'en ai une qui, ça fait un petit bout de temps qui est sortie, mais qui était assez intéressante, et que je trouvais assez rigolote, parce que ça permet d'aborder un petit peu l'histoire, la guerre de 100 ans. 1337-1453 de Cazeneuve, Richer et Peyral aux éditions Bambou. Alors là, comme on peut dire, c'est vous allez apprendre des choses, vous allez surtout rigoler, hein, parce que finalement c'est quelques petits éléments qui sont mis en page de bande dessinée. Par exemple, la loi salique avec la réaction justement de la fille du roi qui est écartée. Donc c'est très humoristique, hein, finalement. Il y a un fond réel, mais qui est décliné sur un ton de l'humour. Et voilà quoi. Donc du coup, ça permet de réviser et puis d'apprendre 2-3 petites choses assez sympathiques et puis de bien rigoler.
Est-ce que c'est tout public? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, ça permet à des enfants d'avoir un premier contact avec l'histoire, mais à travers l'humour justement?
Tout à fait. Okay. C'est une porte d'entrée, hein. Voilà, c'est vraiment une porte d'entrée. Et puis à la fin, bah comme à chaque fois, merci pour la question. À chaque fois aussi, sur certaines séries comme ça aux éditions Bambou, on a un petit livret qui permet d'expliquer encore 2-3 petites choses. C'est un petit peu dans la lignée de la série qui avait fait qui a fait juste 2 tomes sur Napoléon Ier aussi en même temps. Mm-hmm. Donc c'est assez marrant, voilà. Alors, une autre bande dessinée aux éditions Vent d'Ouest, cette fois-ci Frédéric Brémaud et Federico Bertolucci, La légende oubliée de Perceval, qui va être en 4 tomes. Là, pour l'instant, le premier tome vient de sortir.
Perceval, comme... le gallois.
Perceval, ouais, Perceval.
Pas confondre avec Provençal, le gaulois.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris?
Perceval.
Alors, comment t'appelles-tu petit? Perceval, le fils de Lilith. Vous connaissez maman? Je connaissais surtout ton père, Pélinor, l'ami et l'allié d'Arthur, et tes frères. Pélinmore et mes frères. Et donc voilà, tel est le dialogue qui ouvre cette 4e de couverture, qui est extrêmement intéressante. Alors, la bande dessinée, bah justement, Perceval, bah c'est l'histoire de Perceval, la légende de Perceval, hein, on n'a rien inventé. Et graphiquement, franchement, c'est une petite pépite. Les décors sont magnifiques. On commence par suivre l'aventure d'une petite fée qui se balade comme ça, qui ne devrait pas se balader toute seule, ou du moins avec sa camarade, mais qui subit justement la dure loi de la nature, parce que les petites fées sont parfois pourchassées par les animaux que sont justement le renard ou le blaireau aussi.
Le loup, le renard et la belette.
T'entends le loup, le renard et la belette te chanter. Et dans 10 ans, je m'en irai. La jument de Michaud, on y va. Bah justement, on arrive sur la jument de Michaud.
Et voilà.
Ça c'est beau, ça.
Bien sûr.
Et donc voilà. Donc on commence à poser les personnages de cette histoire qui va donc se décliner en 4 tomes. Et moi j'attends avec impatience finalement le tome suivant.
Merci Seb.
De rien.
Est-ce que tu peux nous rappeler les références de ces bandes dessinées, s'il te plaît?
Alors, Cazeneuve, Richer et Peyral, La guerre de 100 ans, aux éditions Bambou. Et puis, de Frédéric Brémaud, Federico Bertolucci, La légende oubliée de Perceval, aux éditions Vent d'Ouest.
Merci Seb.
Merci.
Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. On est tous ici amateurs de Radiohead. On va écouter Knives Out avant de se quitter. Et voilà. C'était la première émission de Band Geek Mafia pour cette nouvelle saison.
Et oui, c'est pas la fin.
C'est le début.
C'est le début de la fin. On se retrouve dans 15 jours pour une émission plutôt spéciale série, hein, série télé. Alors, d'ici là, allez au cinéma, lisez des bandes dessinées.
Clairement.
Et écoutez Radio G, il y a Rudy's Back juste derrière. Et on se retrouve dans 15 jours.
Salut les gars.
Salut.
Salut.
Ciao.